Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram et RGB.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 21e numéro du quart d'heure corrézien. À mes côtés cette semaine encore, Thomas Vandendrich, bonjour.
Bonjour Olivier Serac.
Ensemble, nous retournerons à Besnac, à côté de Pompadour. Un retour au sein du CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Un mois après son ouverture, la tension semble redescendre. Comment voyagerons-nous d'ici 5 à 10 ans en train à travers la région Nouvelle-Aquitaine ? À l'heure de l'ouverture à la concurrence, la région se prépare et nous faisons le point au cours de ce quart d'heure. Nous vous emmènerons aussi au plus près des secours lors d'un exercice. Un exercice qui s'est tenu dans le tunnel de l'autoroute A20 à Noailles, au sud de Brive, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un exercice grandeur nature, vous l'entendrez. Et enfin, ils peuvent être fiers d'eux et de leur travail. Des travailleurs handicapés de l'ESAT d'Obja sont récompensés pour leur invention au concours Lépine 2023. Nous reviendrons sur cette consécration en fin d'émission. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. C'est un sujet qui fait polémique en Corrèze, l'ouverture d'un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Besnac, dans le nord-ouest corrézien. Les premiers demandeurs d'asile sont arrivés début avril, ils sont une douzaine pour l'instant. Une arrivée qui avait provoqué de vives tensions dans la commune et ses environs. Alors Thomas Vandendrich, vous êtes allé sur place. Quel est le pouls dans la commune ?
Eh bien, la tension se calme petit à petit, d'après Angélique Ferreira. Elle est chargée de service au pôle asile de Villetaïs pour la Creuse et la Corrèze. C'est l'association qui pilote le projet.
On a encore des grandes banderoles devant le CADA où il y a écrit non au CADA. Mais disons que la plupart des événements ont été faits en amont de l'ouverture et qu'aujourd'hui, on le ressent moins, ce climat. Il y a eu le week-end dernier un barbecue improvisé dans le champ d'en face. A priori, il y aurait eu quelques insultes, mais c'est resté relativement calme. Et les gens n'ont pas cherché à s'introduire dans le CADA ou autre. Ça n'a pas débordé.
Tout cela n'empêche pas l'association de mener à bien son objectif. L'équipe de Besnac souhaite lancer des projets pour faciliter la vie des demandeurs d'asile. Et pour ça, elle compte s'appuyer sur les bénévoles qui leur apportent
beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui sont venues nous proposer leur aide, des ateliers, des cours de français, forcément, des ateliers cuisine. Il y a également la médiathèque du Père Castor qui s'est proposé pour pouvoir faire des ateliers lecture, également des ateliers d'écriture. Il y a des ateliers d'improvisation théâtre également. On compte faire un potager, donc des maraîchers qui souhaitent venir un petit peu nous aider pour l'installation. La cuisine pourra servir pour faire de la transformation pour tous ces maraîchers. Il y a plein de projets qui se dessinent.
Des bénévoles comme Catherine West, 55 ans, elle souhaite donner de sa personne et de son temps pour aider à sa manière.
Personnellement, je travaille, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je vais apporter les plants pour le petit jardin, surtout les piments, parce qu'ils aiment les repas un peu épicés, apparemment. Avec ma voiture, faire le covoiturage. Si je suis disponible, oui, avec plaisir.
Cette dame d'origine anglaise vit en France depuis 27 ans et pour elle, c'est un engagement humaniste qui l'anime.
Je m'occupe des Ukrainiens déjà depuis un an. Et je fais partie d'accueil des familles du monde, mais je suis aussi une mère de famille qui veut aider les gens. Quand nous, on est venus en France, je trouve qu'on avait les voisins vraiment très gentils qui nous ont accueillis, qui ont été très gentils avec nous. Et puis, à mon tour, je veux faire la même.
Un engagement humaniste qui va de soi pour cette Corrézienne d'adoption.
Je trouve que nous, en Europe de l'Ouest, on a vraiment de la chance. Si nous, on était en Syrie, dans les pays où il y a beaucoup de problèmes, on allait fuir aussi peut-être. On ne sait pas parce qu'on n'a jamais eu ce problème.
Les demandeurs d'asile, eux, ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. Ravi a 27 ans et vient de la République du Congo.
Je veux juste être protégée et être en sécurité. Je trouve cela pas juste, en tout cas, que ces personnes nous en veulent. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas des réfugiés ici au CADA. Et on a qui sont un peu racistes, donc c'est ce qui fait un peu mal parce qu'on a l'impression d'être rejeté.
Pourtant, Ravi le concède, elle n'a rien contre ses habitants qui manifestent de l'animosité à son égard. Elle qui aimerait travailler dans les ressources humaines en France si sa demande d'asile est acceptée dans les prochains mois.
Et si vous souhaitez rejoindre Catherine et aider Ravi et les autres demandeurs d'asile, vous pouvez vous rendre directement sur le site du CADA à l'ancienne auberge de la Mandrie.
Un comité de ligne entre la région Nouvelle-Aquitaine, la SNCF et les usagers s'est tenu mercredi dernier à Brive. Des usagers qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à prendre le train, plus 22% en un an par rapport à 2019. Ce comité, Olivier Sérac, se tenait alors même que l'ouverture à la concurrence approche.
Elle s'approche, mais aucune date n'est encore fixée, assure Étienne Lejeune, conseiller régional de la majorité.
Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une convention qui va être repassée avec SNCF pour un temps donné, puis pour préparer derrière ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire le fait que d'autres opérateurs que la SNCF peuvent répondre pour gérer notre réseau.
Et dans cet objectif, la région fait des choix, assure l'élu.
La région conserve le matériel, conserve la question de la billettique, conserve un petit peu les choix en matière d'orientation, les choix en matière tarifaire, etc. Mais demain, effectivement, c'est la loi. De toute façon, demain, ce sera potentiellement d'autres opérateurs qui peuvent répondre pour exploiter le réseau. On est sur une échéance entre 5 et 10 ans en fonction des lots, en fonction des régions, voilà, et des choix qui peuvent être faits.
L'ouverture à la concurrence ne se fera pas d'un coup, d'autant plus que le réseau en Corrèze en particulier et en Nouvelle-Aquitaine en règle générale a besoin de sérieux travaux.
Même si on enclenche maintenant la démarche, elle sera effective en 2027-2028, hein, pas avant. On est sur ces échéances-là. Et nous, notre choix, notre stratégie, c'est de dire on commence par faire une partie de la région pour pouvoir expérimenter la chose et derrière se laisser le temps de le faire correctement sur le reste de la région. Parce qu'on est conscient que c'est un travail titanesque et que c'est quelque chose de très important et complètement inédit pour nous à faire.
Et ça coûte cher. Rien que l'étude des travaux nécessaires entre Brive et Ussel coûte 1 700 000 euros.
Et au total, la région consacre chaque année 350 millions d'euros de son budget sur la régénération de son réseau ferré. C'est plus de 17% de son budget total de 2 milliards d'euros.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB, mais aussi sur bramfm.com et rgb-radio.net.
Plus de 160 personnes mobilisées, des dizaines de camions déployés, mais surtout un hélicoptère dépêché sur place en pleine nuit. Jeudi soir, la préfecture de la Corrèze a déployé les grands moyens pour un exercice très particulier, simuler un accident de poids lourd sur l'autoroute A20. L'autoroute avait bien sûr été coupée à la circulation le temps de cet exercice. Un exercice mêlant à la fois un risque chimique, mais aussi de nombreuses victimes à prendre en compte. Écoutez ce reportage d'Olivier Sérac.
Forte odeur sur le tunnel, on a les yeux qui piquent, on ne peut plus avancer. On a fait marche in arrière, on demande l'engagement des pompiers.
Tu peux arrêter une odeur de quoi?
Une odeur de chlore qui sort du tunnel. Hein.
C'est bien reçu, de chlore.
Quelques instants après l'arrivée d'une brigade de gendarmes sur les lieux de l'accident, les premiers pompiers se déploient.
Du tunnel, pareil, tout le personnel, on les met au niveau du véhicule.
Ok. On fait reculer tout le monde.
Je vais reculer tout le monde, mais tout le monde au niveau des véhicules et nous, on va envoyer des bilans en reconnaissance.
Okay. Vous n'avez plus de personnel à l'intérieur là?
Non, nous, il n'y a personne qui est rentré.
Ok.
Dans le tunnel, des victimes jouées par des étudiants infirmiers et aides-soignants font monter la pression sur les pompiers. Dans un ballet orchestré au millimètre, chacun remplit son rôle à la perfection, les uns déployant le matériel quand d'autres s'occupent de prendre en compte les victimes.
Madame, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît?
Oui.
Est-ce que vous pouvez marcher?
Non, je ne sors plus mes jambes.
Pas moins d'une heure après le début de l'exercice, le commandant des opérations de secours sur place dresse un premier point d'étape avec ses hommes.
On aurait 20 victimes, 2 décédés. Il n'y a plus aucune personne à l'intérieur du tunnel. Voilà. On a une fuite de chlore. Pour l'instant, on n'a ni la quantité, ni les contenants. Voilà.
Entre pompiers, urgentistes, personnel de l'autoroute et gendarmes, chaque corps est scruté. Leurs moindres faits et gestes sont notés par des superviseurs, à l'instar du capitaine Éric Pénard, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie de la Corrèze.
Là, en l'occurrence, on est sur le secteur du peloton motorisé du Zerche. Donc voir les délais d'intervention, la capacité à mobiliser du personnel et puis surtout leur intervention sur le cas concret de l'exercice. C'est surtout de voir donc les réflexes qui sont pris dès l'arrivée sur site, voir les mesures qui sont prises, les mesures immédiates, ce qui est important de gérer en premier lieu et les comptes rendus qui sont faits dans le cadre du déclenchement de l'alerte.
Si l'exercice a duré toute la nuit de mercredi à jeudi dernier, l'enjeu pour Étienne Desplanques, le préfet de la Corrèze, est très précis.
Ce sont des choses essentielles qu'il faut observer. C'est la remontée de l'information, c'est les premières mesures Est-ce qu'on a réussi à faire sortir les victimes? Et c'est aussi, parce que c'est un accident chimique, où en est le gaz? Est-ce qu'il y a des risques pour les riverains autour? Pour essayer de répondre en quelque sorte aux exigences qui sont les nôtres, c'est-à-dire sauver les vies. On se laisse deux bonnes semaines et on fait un retour d'expérience à froid, ce qui permet de tirer les leçons, les plus, mais surtout les moins. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans ce type d'exercice, c'est surtout ce qui ne fonctionne pas très bien pour pouvoir, le jour où ça arrive, eh bien, être bien meilleur que lors des exercices.
Chaque année, les autorités préfectorales organisent une demi-dizaine d'exercices de ce genre pour tester, mais aussi chercher à améliorer toujours plus leurs interventions.
Le concours Lépine récompense chaque année les meilleures inventions du monde. Et le week-end dernier à Paris, le jury a récompensé une invention 100% corrézienne, celle de l'ESAT, atelier nature d'Objat. L'établissement et service d'aide par le travail a reçu la médaille de participation pour son piège à rat au pied. Une véritable consécration pour l'établissement, Olivier Serrac.
Consécration qui vient couronner des années de travail, souligne Vincent Dureau, le directeur de l'ESAT Objatois.
Le piège tel qu'on l'avait monté dans les toutes premières années, il n'était pas commercialisable. Pendant 6 ans, nous avons essayé d'élaborer un process avec les travailleurs handicapés qui nous permettait de pouvoir, d'une part, le commercialiser, mais pour le commercialiser, il fallait pouvoir le fabriquer et le monter. Et en fait, on a simplifié au maximum le montage tout en prenant en compte des problématiques des travailleurs handicapés.
Et c'est visiblement ça qui a touché le jury du concours Lépine.
Le président et ainsi que les jurys ont trouvé que le projet était quelque chose d'incroyable. Et puis surtout, c'est sur la partie montage et sur l'élaboration du piège en lui-même, ils ont trouvé très ingénieux le fait d'avoir pensé un outil qui soit fait sans vis et sans rivets, en fait. C'est un outil qui est simple d'utilisation et aussi simple de montage et qui fonctionne pour le coup. Donc ça a été vraiment très, très, très apprécié par le jury du concours Lépine.
Depuis une semaine à Objat, c'est un sentiment de fierté qui règne au sein de l'ESAT.
Nous attendons tous avec impatience le résultat qu'ils n'avaient pas parce qu'on était sur un long week-end. En arrivant à l'établissement, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on a gagné? Et quand je leur ai montré la médaille ainsi que le diplôme que nous avons reçu du concours Lépine, eh bien, voilà, ça a été pour eux une vraie fierté et puis une certitude que, en fait, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça a été validé par ce concours qui n'est pas un petit concours, qui est vraiment un concours qui est connu et reconnu à travers le monde.
Reconnaissance d'autant plus importante que cette médaille a aussi un goût exceptionnel.
On est très fiers de tout le travail qui a été fait par les travailleurs. Mais vraiment très très fier. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une chose très importante, mine de rien, c'est qu'on est le premier établissement ESAT, anciennement CAT depuis 50 ans, à avoir participé à un concours Lépine avec un produit ESAT. Et ça, c'est pas rien.
Une récompense qui permet aussi de gagner en confiance et de développer ainsi de nouveaux projets.
On a 2 projets qui, je pense, notamment un qui va sortir très prochainement, dans la même veine que ce piège à rat au pied. On a un projet qui va toucher beaucoup plus de particuliers. Et un deuxième projet qui, lui, est en cours de production. Et surtout, on attend les premiers résultats de ce produit pour pouvoir le finaliser l'élaboration avant de le commercialiser.
Parce que dans ces pièges développés par les ESAT d'Objat, les animaux ne meurent pas et ne sont pas non plus empoisonnés. Une fois pris au piège, les animaux ne peuvent ressortir que par l'aide d'autres prédateurs.
Et nous vous tiendrons bien sûr au courant des prochaines inventions des travailleurs de l'ESAT d'Objat. C'est la fin de ce 21e numéro du quart d'heure corrézien. Merci à vous de nous avoir suivis.
La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, mais pas d'inquiétude, nous reviendrons très vite la semaine d'après pour encore plus d'informations 100% corréziennes.
Et en attendant, nous vous souhaitons une bonne journée sur nos antennes en Corrèze ou ailleurs.